Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Nous vous emmenons dans les étoiles. Notre vaisseau s'est posé à Fleurance, dans le Gers, à la Ferme des Étoiles, véritable référence internationale pour l'observation des étoiles et du ciel. Son fondateur, Bruno Monflier, est avec nous pour expliquer comment cette petite ferme est devenue incontournable pour tous les passionnés d'astronomie. C'est aussi une véritable entreprise. De là-haut, semble-t-il, le monde est plus beau. Plantons le décor, si vous le voulez bien. La Ferme des Étoiles est installée dans la campagne, loin de toute pollution visuelle. Il faut suivre une petite route depuis Fleurance, dans le Gers, pour y arriver. Bonjour Bruno Monflier.
Bonjour.
On arrive chez vous, à Mauroux, et le voyage peut donc commencer. Pourquoi Fleurance ?
Oh, Fleurance, c'est tout à fait un hasard. C'est parce que qu'avec quelques amis, on se trouvait dans la région et qu'on a décidé ce projet qui est venu. Il y a d'ailleurs effectivement lui-même un petit peu comme ça, de rencontres, d'opportunités, et qui s'est fait... Alors je vais peut-être vous décevoir pour cette émission, le goût d'entreprendre, qui s'est fait sans aucun plan a priori, sans aucun ce qu'on appellerait aujourd'hui un business plan,
ouais.
Qui s'est plutôt fait à travers la passion d'un certain nombre de gens.
Et vous en êtes arrivé aujourd'hui à avoir une véritable entreprise ?
Oui, c'est vrai. J'arrive parfois à le regretter parce que je me dis, dans le fond, le projet, c'était la passion d'observer le ciel et les étoiles. Et quand on a une entreprise, puisqu'aujourd'hui, il y a une quinzaine de salariés à temps plein, quand on a une entreprise, on regarde moins, on a moins le temps de regarder les étoiles. On est plus souvent plongé dans les papiers et dans les comptes. C'est dommage.
C'est dommage, oui. Il faut garder quand même un petit peu ce côté, cette part de rêverie.
Il faut.
Il faudrait essayer, on va en reparler. Alors, c'était en quelle année ? En quelle année vous avez lancé le projet ?
Et le projet, en fait, a démarré en 1991. On y a travaillé depuis 1990. Et il a démarré avec un des éléments de ce projet, qui est le festival d'astronomie de Fleurance, qui, lui, a démarré à la suite d'une rencontre avec un astrophysicien, avec Hubert Reeves, la volonté d'une municipalité de se doter d'une manifestation qui soit autre chose que la nourriture, l'armagnac, etc. C'est très bien, hein, d'ailleurs, j'adore ça. Mais il y avait envie peut-être de sortir un petit peu de ces clichés gersois et puis de faire autre chose. Et donc c'est comme ça qu'est né le Festival d'Astronomie de Fleurance. Et ce festival a été le point de départ, en fait, du reste de l'aventure.
D'accord. Donc c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose pour observer les étoiles, pas uniquement parler des étoiles au mois d'août, puisque le Festival de Fleurance a lieu chaque année au mois d'août, mais pouvoir observer le ciel toute l'année.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on a lancé le festival, qui était lancé sur une idée, qui était encore une fois une idée de passionné, qui était de dire, dans le fond, le ciel, c'est quelque chose d'important. C'est pas seulement beau, c'est beau à regarder, mais c'est quelque chose d'important parce que ça raconte en fait notre histoire. Tout le monde devrait être au courant de ça. En fait, l'astronomie, c'est de l'histoire et de la géographie. C'est l'histoire de comment est-ce qu'on est arrivé là, comment est-ce que l'univers s'est développé, comment est-ce que nous sommes là sur une planète. Et puis c'est de la géographie, où est-ce qu'on se situe au milieu de l'univers, au milieu, on n'est pas au milieu d'ailleurs, où est-ce qu'on se situe dans l'univers. Et voilà, donc l'idée était là au départ, et avec ce festival, on s'est dit, on a vu qu'il y avait effectivement un besoin, une envie du public, en tout cas d'une certaine partie du public, d'aller plus loin, en fait. Et on a voulu passer d'un événement qui était vraiment un événement ponctuel à quelque chose d'un peu plus durable. Et c'est comme ça qu'on a créé une autre association, puis encore une autre, et qu'on s'est petit à petit développé.
Et vous êtes développé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la ferme des étoiles ?
Bon, à la ferme des étoiles, on peut faire plein de choses. Mais je dirais qu'il y a deux grandes catégories de publics qui viennent à la ferme. Il y en a une, ce sont les passionnés, c'est-à-dire les gens qui ont envie véritablement de pratiquer un loisir formidable qui est l'astronomie.
Des gens qui ont déjà des notions sérieuses en astronomie.
Oui, qui ont des notions sérieuses ou qui ont envie d'en acquérir,
ouais.
Qui ont envie véritablement de devenir ce qu'on appelle un astronome amateur, de s'acheter un instrument s'ils en ont pas, d'apprendre par exemple à faire de la photo, etc. Voilà, c'est assez technique effectivement, et ça c'est un public qui va venir sur un week-end pour les séjours les plus courts, ou bien pour une semaine complète, justement, pour apprendre, pour pratiquer, pour se former. Et puis il y a un deuxième public qui est de loin le plus nombreux, qui est le public des curieux.
Ah oui,
c'est-à-dire les gens qui... Mais c'est le public aussi que nous avons visé dès le départ. Le public des gens, justement, qu'on veut toucher, les gens qui sont simplement curieux, qui n'ont pas de connaissances particulières, qui n'ont pas envie de devenir astronome amateur, mais qui ont simplement envie de, je sais pas, simplement de
comprendre.
Se repérer dans le ciel, de comprendre les étoiles, c'est quoi, pourquoi est-ce que les étoiles scintillent, quelle est la différence entre les étoiles et les planètes, enfin, etc., etc., plein de choses comme ça. Puis d'en savoir un peu plus, justement, sur l'histoire de l'univers. Comment est-ce que l'univers s'est formé? Quand on dit aux gens, vous êtes fait de poussière d'étoiles, bon, c'est une belle expression qui peut paraître poétique, mais c'est aussi une réalité scientifique. Mais il faut expliquer en quoi.
Il faut l'expliquer, tout à fait. Il faut arriver à vulgariser.
Oui, voilà. Et c'est encore plus fascinant, d'ailleurs, d'arriver à regarder cet univers tout en ayant compris de quoi il s'agissait.
Ouais.
C'était Paul Valéry, je crois, qui a la dernière phrase qu'il a écrite avant de mourir, c'est « Le souci de ma propre position par rapport au soleil ne doit pas me faire trouver l'aurore moins belle.
» Oui, tout à fait, tout à fait. Donc en fait, vous arrivez donc à expliquer simplement les choses les plus compliquées. Et c'est ça tout le challenge, en fait, de la ferme des étoiles.
Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que, dans le fond, là aussi, je ferai une distinction. Les choses ne sont pas compliquées. Ce qui est compliqué, c'est de les découvrir. Ce qui est compliqué, c'est le travail des scientifiques. Ce qui demande la mise en œuvre de moyens complexes, à la fois sur le plan des idées, sur le plan des concepts, mais aussi du matériel.
Ça, c'est
assez complexe. Mais après, ce qu'on découvre, c'est finalement quelque chose qui est relativement simple, même parfois extrêmement simple à raconter. Ce qu'on raconte, c'est une histoire. Et je vais vous donner un exemple. Arriver à déterminer qu'il y a autour d'une étoile très lointaine des planètes qui tournent autour, ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple parce que c'est à des millions d'années-lumière de nous. Il faut repérer des petits éléments, des changements d'intensité de l'étoile. C'est très compliqué. Mais dire à un moment, voilà, nous vivons autour d'une étoile qui s'appelle le Soleil, et autour du Soleil, il y a un certain nombre de planètes. Eh bien, c'est pas un cas unique. Dans l'univers, et en tout cas dans notre galaxie, il y a probablement, en tout cas on en a découvert quelques centaines, il y a probablement des milliers, voire des millions d'étoiles, de soleils comme le nôtre, qui ont des planètes qui tournent autour. Ça, c'est pas compliqué.
Bien sûr.
Voilà, alors c'est difficile à prouver. Pour les scientifiques, c'est difficile à démontrer, mais c'est pas compliqué. Et les conclusions qu'on peut en tirer, vous comprenez tout de suite que c'est même plus des conclusions scientifiques. Mais alors, est-ce que s'il y a des milliers d'étoiles, voire des millions d'étoiles qui ont des planètes autour, est-ce que la vie n'a pas pu se développer sur l'une d'entre elles ailleurs?
Alors là, on s'interroge.
Voilà la question. Et ça, c'est une question, on n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour y réfléchir. Voilà, le scientifique, lui, va vous répondre. Moi, tant que je n'ai pas vu, je ne sais pas.
Tout à fait, tout à fait. Mais vous pouvez vous interroger, vous pouvez effectivement en débattre lors de vos soirées, de vos veillées que vous organisez à la Ferme des Étoiles.
Voilà.
Revenons sur le terrain de l'entreprise. Aujourd'hui, donc, vous avez une quinzaine de salariés.
Oui.
Vous êtes le chef d'entreprise.
On peut le dire comme
quel
ça.
Est, j'allais dire quel type de management, parce que bon, on sent bien que vous êtes un passionné par le ciel, par les étoiles, etc. Mais est-ce que c'est parfois difficile de revenir justement sur ce terrain un peu concret, vous le disiez tout à l'heure, des chiffres, du management, de l'organisation? Comment vous faites?
Ben, c'est difficile.
Quelles sont vos ficelles?
C'est difficile, mais j'ai pas de ficelles pour le faire. C'est difficile. Je crois que le métier de chef d'entreprise, de toute façon, c'est un métier difficile, parce que là, on parle pas de d'éléments techniques ou d'éléments scientifiques, on parle d'hommes, d'humains.
On parle d'humains, ouais, tout à fait.
Et voilà, et on a tous nos habitudes, nos réactions, nos façons de voir, nos façons de penser, et il faut arriver à le comprendre, il faut arriver à se mettre à la place de chacun. Et c'est pas toujours facile. Vous savez, même quand on est passionné par quelque chose, quand on a une entreprise à faire vivre, ouais, malgré tout, parce que c'est ça, on est un patron, on est un petit patron, quelquefois, avec les défauts d'ailleurs des petits patrons. Avec peut-être cette tendance à osciller entre le paternalisme d'un côté ou d'un autre côté l'excès de direction, de directive, etc. C'est pas simple.
C'est pas simple.
C'est pas simple. Je préfère les étoiles, c'est plus simple.
Vous travaillez avec quel profil d'animateur, de scientifique, de technicien?
Alors on travaille essentiellement, nous, avec des animateurs, effectivement, qui sont des gens qui se sont formés, souvent par eux-mêmes, à qui on donne une formation complémentaire, ou à qui on permet d'acquérir une formation complémentaire, mais qui se sont des autodidactes, le plus souvent, des passionnés autodidactes.
D'accord.
Mais aussi des passionnés.
Et qui savent transmettre.
Et qui savent transmettre. Ça, c'est le plus important, c'est ce qu'on leur demande, en tout cas.
Merci Bruno Monfillet, vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission, et nous avons toujours la tête dans les étoiles, et avouons-le, c'est bien agréable. Merci Bruno Monfillet d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de la Ferme des Étoiles à Fleurance dans le Gers. Et à nos côtés, bonjour Denis Avril.
Bonjour.
Vous êtes référent éthique pour le goût d'entreprendre. Denis, avez-vous la tête dans les étoiles?
Bon, je ne sais pas, je m'intéresse bien sûr à l'astronomie sans être un passionné. Mais justement, sur la passion, là, on sent que vous êtes un passionné. Mais vous avez aussi 15 salariés, donc ça a déjà été abordé par Doris. Vous avez, je suppose, aussi beaucoup de bénévoles, comme d'association, mais vous allez nous le confirmer. Quelle est la part de la passion dans ces salariés et dans ces bénévoles? Et s'il y en a qui ne sont pas passionnés, comment ils s'intègrent finalement dans ce milieu de gens qui ont la tête dans les étoiles, quoi?
Je crois que comme dans toute entreprise, il y a deux types de postes. Il y a les gens qui travaillent sur le sujet, c'est-à-dire qui sont les médiateurs et qui sont des gens qui sont tous passionnés. Parce que je crois que pour faire ce métier, il faut vraiment être passionné. Et donc ils ont aussi un comportement, une attitude de gens qui sont passionnés. Après, il y a les gens qui travaillent plus sur le côté administratif, dans les bureaux, la comptabilité, enfin toutes ces tâches qui sont indispensables au fonctionnement d'une entreprise. Et là, beaucoup sont passionnés par le sujet, parce que on fait des choses passionnantes. Mais la passion, dans ce cas-là, est moins essentielle à l'action elle-même. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'occuper de la comptabilité, par exemple, d'une association ou d'associations, puisqu'en fait, il y a un groupe de plusieurs associations comme les nôtres, sans nécessairement être passionné par l'astronomie, ni même avoir des compétences particulières en astronomie. Donc je dirais que d'une manière générale, il y a beaucoup de passion chez nous, même dans les gens qui travaillent dans les bureaux, et il y en a énormément, peut-être encore plus, chez ceux qui sont amenés à être en contact avec le public et donc sur les médiateurs scientifiques.
Qui sont sur le terrain.
Oui.
Et les bénévoles, là, vous en avez ou c'est...
On a très peu de bénévoles. On a des gens qui viennent et qui travaillent avec nous pour le festival. Mais pour le reste de l'année, on n'a pas de bénévoles ou quasiment pas. Tout simplement parce que comme c'est une activité d'entreprise, comme on le disait, le fonctionnement d'une entreprise et le bénévolat sont pas nécessairement toujours compatibles. Quand vous dites que vous allez faire une animation dans une école, par exemple, vous pouvez peut-être obligé de compter sur des gens à qui vous pouvez dire, voilà, tel jour à telle heure, il y a une animation qui va se faire dans cette école et c'est toi qui vas y aller. Vous pouvez pas avoir cette exigence vis-à-vis d'un bénévole. Mais vous pouvez pas non plus vous permettre le jour dit ce que l'enseignant il attend et que personne ne vienne. Donc c'est pour ça que nous on a plutôt mis l'accent volontairement sur le salariat, sur avoir des employés, des gens qui plus est se forment et s'améliorent d'année en année, plutôt que sur des bénévoles sur lesquels on peut pas légitimement, et c'est normal, on peut pas compter toujours et systématiquement.
Vous parlez des écoles, vous recevez beaucoup d'enfants, d'élèves, organisez des centres aussi de vacances.
Oui, alors bien sûr, on a un mode de fonctionnement par rapport aux écoles, aux scolaires, qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que ce sont nos équipes qui se déplacent, soit dans les écoles elles-mêmes, soit dans des centres qui sont agréés pour accueillir des classes, des scolaires. Hein, vous savez que il faut vraiment des agréments très spécifiques. Et là, c'est nos équipes, donc les animateurs de la Ferme des Étoiles, qui se déplacent avec le matériel nécessaire pour aller soit dans l'école, soit dans ces centres où on fait des classes de découverte qui peuvent durer de quelques jours à une dizaine de jours.
Ah oui, d'accord. Denis, une autre question.
Oui, lorsqu'on t'intéresse à l'astronomie, et comme vous l'avez dit, donc ça ramène aussi à l'origine de l'univers et de notre existence, on ne peut pas ne pas se poser de questions métaphysiques finalement. Et nous sommes sur Radio Présence et je crois que ça vient naturellement à l'esprit. Est-ce que ces questions peuvent être abordées entre vous ou avec vos visiteurs? Et notamment lorsqu'on parle des trous noirs, de liaisons possibles avec d'autres dimensions de l'univers, etc. Est-ce que ce sont des choses que vous abordez ?
Oui, bien sûr, c'est des choses qu'on aborde en faisant une distinction qui me paraît importante. C'est d'une part, qu'est-ce que l'approche scientifique ? Et d'autre part, qu'est-ce que une approche qui n'est pas scientifique. L'approche scientifique, elle peut répondre à la question essentiellement, je simplifie, mais elle peut répondre essentiellement à la question du comment. Comment est-ce que les choses se sont passées? Comment est-ce que à un moment il y a eu le Big Bang et ça consiste en quoi? Comment est-ce que ensuite la matière s'est complexifiée, s'est structurée pour donner naissance progressivement à des composants de plus en plus complexes et finalement à la vie. Ça, c'est des questions à laquelle la science peut répondre. Comment les choses se sont passées? Mais la science, elle ne répond pas à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Pourquoi est-ce que les lois qui gouvernent l'univers semblent être les mêmes partout dans l'univers? Pourquoi même est-ce qu'il y a un univers plutôt que pas d'univers du tout? Ça, c'est pas une question à laquelle la science va répondre, mais c'est une question qu'on a le droit d'aborder, et qu'on a le droit d'aborder éventuellement à la lumière des réponses que les scientifiques peuvent avoir apportées sur le comment. Mais ça reste une interrogation, comme vous disiez, métaphysique, à laquelle on peut apporter des réponses spirituelles, religieuses, tout ce qu'on veut. Et on s'interdit pas d'en parler, parce que, bien évidemment, quand on s'intéresse à l'univers, le questionnement derrière, il est là. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi tout ça? Et donc, évidemment qu'on aborde la question. Mais en disant bien attention, il y a un moment, on ne fait pas de science. Ce n'est pas le scientifique qui vous répond à la question du pourquoi. C'est l'être humain qui est en face de vous et qui a le droit d'avoir son opinion et qui vous fait part de son opinion.
Est-ce que les étoiles passionnent toujours autant? C'est intergénérationnel. Est-ce que vous avez remarqué ces dernières années qu'il y avait, j'allais dire, un intérêt grandissant pour l'espace, le ciel? Ou est-ce que c'est comme ça depuis que vous avez lancé le projet?
Non, je pense que il y a certainement un intérêt grandissant des médias pour non pas pour le ciel, mais pour l'espace.
Ouais.
Tout simplement parce que l'espace...
La conquête de l'espace.
La conquête, l'utilisation de l'espace, la présence de l'homme dans l'espace, à travers, pas uniquement l'homme physiquement dans la station spatiale, mais aussi à travers les satellites, toute l'utilisation qu'on fait de l'espace. Donc ça, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, parce que ça fait de plus en plus partie de notre quotidien. Quant aux étoiles, si vous voulez, à l'astronomie, etc., je pense qu'il y a toujours une passion pour ça, qu'elle perdure. Dire si elle est plus importante aujourd'hui qu'hier, honnêtement, je sais pas. Je crois pas que ça ait fondamentalement changé.
Mais c'est vraiment intergénérationnel.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Denis, une autre question.
Oui, cet intérêt dont on parle, je voudrais aussi le relier à ma question précédente sur un peu les questions qu'on peut se poser. C'est que les scientifiques actuellement, que ce soit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à tout expliquer. Au-delà des lois de la gravitation universelle, au-delà de la mécanique quantique, on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes qu'on ne sait pas expliquer actuellement, dans l'infiniment petit bien entendu, mais aussi dans l'infiniment grand, j'évoquais les trous noirs, d'où des hypothèses scientifiques actuellement qui sont faites, mais qui sont que des hypothèses, qu'il peut y avoir des dimensions de l'univers que nous ne connaissons pas, au-delà de nos trois dimensions, puis de la quatrième. Est-ce que ça, c'est des questions qui, des fois, sont abordées par des gens qui se posent des questions et c'est là où ça ouvre vraiment l'esprit vers autre chose ?
Oui, bien sûr, mais tout à fait. Ceci dit, vous savez, la démarche scientifique, elle commence par là. Elle commence par des hypothèses. Le Big Bang, c'est quoi ? C'est une hypothèse. C'est pas quelque chose comme ça qui a été démontré du jour au lendemain. Et peut-être que demain... Les découvertes futures de la science montreront que le Big Bang, c'était pas comme ça que ça s'est passé. En fait, la science, elle imagine, le scientifique imagine des scénarios, et puis après, il va vérifier, les scientifiques vont vérifier si les observations, etc., collent avec le scénario qui a été imaginé. C'est là où, d'ailleurs, la démarche scientifique, elle est très intéressante et il faut pas l'opposer, par exemple, avec une démarche plus artistique. Par exemple, on dit souvent, on parle souvent de création artistique que l'on oppose à la logique scientifique. Non, il y a aussi une création scientifique qui est imaginer une hypothèse, imaginer une théorie, et après on va vérifier si cette théorie est vraie. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des scientifiques qui imaginent qu'il n'y a pas qu'un seul univers. Un multivers. Bon, et ils réfléchissent là-dessus et ils essaient de trouver des arguments et des observations éventuelles qui peuvent faire que on démontre ou on démontre pas, ou on va pas vers ces hypothèses. Aujourd'hui, tout ça, ça reste quand même beaucoup des hypothèses, mais c'est des hypothèses qu'il n'est pas interdit de faire. Après, vous n'avez aucun scientifique qui va vous dire demain, oui, il y a des multivers. Il y a des univers multiples et des univers parallèles. Mais il va vous dire, l'hypothèse qui puisse y en avoir n'est pas absurde.
Bruno Monflier, quel genre de manager êtes-vous ?
Il faudrait le demander aux salariés de l'entreprise.
Quels sont vos projets pour cette année ?
Beaucoup.
Ah oui.
Il y a beaucoup de projets. D'abord, cette année-là, on va retourner au Mexique, puisqu'on a exporté, si je puis dire, ou implanté la Nuit des Étoiles, la fameuse Nuit des Étoiles qui est née en France, on l'a exportée au Mexique, ouais. Sous le nom de Noche de las Estrellas, évidemment. Et donc, on va fêter le 10e anniversaire de la Nuit des Étoiles au Mexique, donc on va bien sûr y être présent. On va être présent au mois d'octobre au Liban, où on a exporté aussi le Festival d'Astronomie de Florence, qui s'appelle là-bas Festival d'Astronomie de Florence au Liban.
Bravo.
On va poursuivre aussi un gros travail qu'on a entrepris, c'est un travail sur la nuit. C'est-à-dire que ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est... bon, évidemment, la nuit, c'est notre domaine. Mais la nuit, dans le fond, c'est pas uniquement regarder le ciel. La nuit, c'est aussi écouter la vie nocturne, la comprendre, la protéger. C'est lutter, justement, contre la pollution lumineuse et on essaie de le faire un peu partout. On participe au programme Réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi. On est en train de mettre un programme du même type en place dans notre région, dans le département du Gers. Et notre projet vraiment immédiat le plus important, c'est développer des activités autour du thème de la nuit et faire comprendre au public l'importance qu'il y a à protéger la nuit, parce que protéger la nuit, c'est protéger la biodiversité, c'est protéger la santé humaine, c'est protéger la planète, parce que pour éclairer, il faut produire de l'énergie et donc on génère des gaz à effet de serre. C'est protéger le ciel, donc le droit que nous avons tous de pouvoir continuer à regarder le ciel.
Merci Bruno Monfilier. On vous retrouve dans le Gers, à Florence,
de Florence. Je vous y attends.
À la Ferme des Étoiles. Merci à vous de nous écouter. Toujours plus nombreux sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Vous souhaitez nous joindre, entreprendre@radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.